Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, le dictionnaire amoureux de la Corse, de Patrice Franceschi. Patrice Franceschi livre un dictionnaire amoureux de la Corse éminemment poétique, original et inattendu. Les entrées de ce dictionnaire amoureux se présentent comme autant de brèves nouvelles littéraires où les attaques comme les chutes sont pensées comme elles doivent l'être dans cette forme d'écriture. Par choix également, et après des réflexions approfondies sur chaque entrée, toutes les connaissances apportées sur la Corse, qu'elles touchent à des objets aussi triviaux que la nourriture ou à des éléments plus nobles comme l'histoire ou la culture, sont abordées avec le même souci. Trouver un angle, une perspective, une approche qu'on ne trouve pas dans les autres livres, dans une chasse impitoyable au lieu commun. Chaque fois, il s'est agi de ne rien imiter, de sans cesse faire appel à l'imagination dans une tension permanente vers l'originalité. Enfin, la tonalité générale du dictionnaire se veut poétique, même là où la poésie est censée être absente, afin que se dégage de l'ensemble une unité basée non pas sur des éléments factuels, mais sur l'une des formes les plus universelles de la littérature. Pierre Franceschi est issu d'une famille corse. Adolescent, il entreprend ses premiers voyages en Guyane, au Brésil. En 1978, il longe le Nil de sa source à la mer et traverse le désert égyptien à dos de chameau. Il va en Himalaya et en Amazonie. Fin 1970, il participe au sauvetage des Boat Peoples en mer de Chine. Dans les années 1980, il s'engage dans les rangs de la résistance afghane contre l'armée soviétique. Il a été et est toujours un soutien actif des mouvements kurdes en Irak et en Syrie au cours des différents conflits. Ancien président de Solidarité internationale, président de la Société des explorateurs français de 2002 à 2006, Patrice Franceschi est à l'origine de nombreuses missions humanitaires dans les zones de guerre, la Bosnie-Herzégovine, le Kurdistan, la Somalie. Depuis 2003, il est le capitaine du 3 mois d'exploration La Boudeuse avec lequel il a accompli une vingtaine d'expéditions autour du monde. En mars 2011, Patrice Franceschi s'associe avec l'ONG de solidarité internationale ACTED avec l'objectif commun de contribuer à la recherche sur les grands enjeux environnementaux, climatiques, sociétaux et humains. Quelques beautés qui me sont chères. L'hiver, depuis la maison de mon père perché sur son lit d'aigle à Casaperte, le spectacle ineffable de paysages toscans au premier plan et derrière eux de montagnes alpines crénelées de neige. C'est comme si l'on avait mélangé deux mondes différents en un seul et même lieu pour en créer un troisième qui n'appartient qu'à la Corse. La vision prodigieuse des citadelles de Calvi et de Bonifacio en arrivant depuis la mer. Pour un marin de retour chez lui après une longue absence, cette vision est d'une force singulière, farouche et saisissante à la fois, Calvi pour ses formes classiques mais imposantes, Bonifacio pour la hauteur vertigineuse de ses falaises aux strates de roches empilées comme à l'infini. J'ai toujours pensé qu'Ulysse, se revoyant les côtes d'Ithaque, sa patrie, après 10 années de guerre contre les Troyens et 10 années d'errance à travers la Méditerranée, avait dû être envahi d'une émotion semblable. La plage de Santa Giulia, au sud du golfe de Porto Vecchio. Vue de haut, elle se montre exceptionnelle. La nature lui a octroyé la plus belle des rotondités. Elle est comme un cercle presque parfait, s'ouvrant à peine sur la mer, cercle protégé par une couronne de roches que borde une bande de sable fin, mêlant sa blancheur à des eaux d'un bleu acidulé. L'intérieur de l'église grecque de Cargèse, sa décoration hautement baroque, ses icônes colorées, ses lustres aux lumières blanches suspendues sous des voûtes enluminées, ses fresques, qui ne laissent aucune place au vide, renvoient aux constructions classiques des rites chrétiens orientaux. Rien de très original, mais cette église m'est chère parce qu'elle témoigne d'un pan d'histoire de la Corse teinté de tragédie grecque, ce qui toujours me plaît. Lorsque les Turcs s'emparèrent du Péloponnèse dans la seconde moitié du XVIIe siècle, 800 habitants de la région du Magne demandèrent asile à la sérénissime République de Gênes. Dans sa grande bonté, celle-ci leur octroya un petit territoire au-dessus de Cargèse en contrepartie de leur engagement dans ses forces armées. Les Grecs débarquèrent en 1676 et s'installèrent dans une localité appelée Paumia. L'affaire n'alla pas d'elle-même pour les Corses de la région. C'est une chose d'accorder l'hospitalité à celui qui passe, c'en est une autre de l'octroyer à celui qui reste. Tout au long du siècle suivant, les heurts furent fréquents entre les deux communautés qui, souvent, s'entretuèrent, brûlant récoltes, églises, maisons, la nature humaine toujours. Puis le temps fit son affaire. Des dissidents osèrent des mariages mixtes, ceux-ci se firent de plus en plus nombreux, et les descendants des Grecs s'assimilèrent peu à peu. Dans cette quiétude retrouvée, leur rite religieux put perdurer et leur église continue d'exister à Cargèse, où elle fut rebâtie au XIXe siècle. Le spectacle rare des puissants dards de roches rouges s'avançant dans la mer bleue foncée de la réserve naturelle de Scandola. Nous devons cet univers de pure nature mêlant la terre et la mer à la combinaison puissante des érosions marines et éoliennes. À contempler ces éperons dantesques, les murailles et les grottes qui les entourent, les pitons et les falaises se dressant de toutes parts au milieu des oiseaux, des cistes et des euphorbes, je me suis toujours plu à penser qu'un démiurge avait pu passer par là pour seconder la nature dans cette création. Le village de Nonza, dans le Cap Corse, paisible et tranquille, il est l'image d'une certaine forme de sérénité oubliée. C'est ce que laissent entendre ces maisons de pierre immuables, ces délicats vergers et jardinés qui semblent être là depuis toujours, sa petite place fleurie et surtout sa tour Pauline. Elle domine l'ensemble de son imposante carrure, tout en haut de son rocher isolé, comme née en même temps que l'univers pour sauvegarder Nonza. Elle s'impose au-dessus de la mer en donnant l'impression magique de n'avoir résisté autant que pour protéger le monde tout entier. L'église de San Michele de Murato dans le Nebbio. Rares sont les édifices religieux qui, malgré la modestie de leur taille, m'ont autant saisi par leur distinction et les couleurs qui les parent. Ici, tout tient dans la polychromie, des murs extérieurs aux consoles sculptées d'animaux sauvages et de personnages énigmatiques. Jamais l'assemblage des noirs, des gris et des blancs n'a atteint un tel accord, une telle résonance. Et le clocheton qui surmonte l'ensemble, comme les étroites fenêtres à l'ovale allongé, paraissent avoir été conçues pour amplifier l'isolement de cette église dressée sur un plateau balayé par les vents. Nous devons cette beauté aux Pisans, qui précédèrent chez nous les Génois. C'était au XIIIe siècle, en un temps où les efforts des architectes pour tendre vers le beau égalaient leur foi. On accomplissait des chefs-d'œuvre. La plage de l'Ostricone, pur joyau poétique, quand on la contemple du haut des reliefs qui la surplombent. Son spectacle renvoie alors, et étonnamment, à la beauté du ciel qu'offre l'Antarctique, la nuit. Les eaux turquoises de la mer, parcourues des écharpes noires des algues, sont à l'image des ciels du Grand Nord, striés par les volutes verdâtres des aurores boréales. Cette plage est destinée aux voyageurs de long cours, pour la comprendre, aux peintres, pour la magnifier, au poète pour la chanter. Si les trois sont logés en un même homme, la plage de l'Ostricone, lui, est un petit Éden sur terre et lui revient presque de droit. Dans le golfe de Valinco, les formes infinies et sans cesse changeantes des innombrables rochers parsemant la côte. Il semblerait que le destin les ait placés là pour permettre aux hommes de s'y asseoir face à la mer dans un seul et unique but, rêver, simplement rêver, une fois pour toutes et définitivement, laissant le reste du monde aller son sombre chemin. Sur les hautes routes de montagne, la rencontre impromptue, mais toujours mélancolique, des troupeaux de chèvres au long pelage sauvage et aux cornes noires cannelées et recourbées. Elles font leur route sans hâte, bêlant et trottinant, jamais poussées par leurs bergers, comme si le tourbillon de la vie n'avait jamais existé. L'église Saint-Jean-Baptiste veillant sur le vieux port de Bastia, sa façade extérieure illuminée la nuit, est l'un des spectacles les plus enchanteurs de la ville, avec la citadelle perchée non loin sur son sommet en pierre, sentinelle du passé, préservant l'avenir. Voilà une église où la concorde des lumières nocturnes a été conçue avec intelligence pour marier les deux fines tours à clochetons qui encadrent le triangle architectural de la façade et ses ouvertures vers la mer. Il m'arrive de contempler longtemps cette perfection rare, le soir, attablé à la terrasse de l'un des cafés du vieux port. Quels yeux cela serait des Pozzines du lac de Nino? Aucun, sans doute, tant elles mêlent avec grâce les camaïeux bleus de leurs larges trouées rondes aux camaïeux verts des herbes rases les entourant. Et qui se fatiguerait de cet autre lac qu'est celui du Capitello dans les gorges de la Restonica? Il allie si bien le bleu profond de ses eaux à l'ocre délicat des falaises qui le contiennent qu'on peine à le quitter. C'est un lieu commun d'admirer les splendides aiguilles de Bavella dans le sud de l'île, ces murailles déchiquetées qui tendent des moignons de bras vers le ciel au milieu d'un décor naturel impressionnant. Il arrive que les lieux communs soient justes. Alors, continuons de goûter cette merveille dont la nature a fait don à la Corse. Les calanches de Piana, dominant le golfe de Porto, sont comme les aiguilles de Bavella, un lieu commun dont on ne peut s'extraire. Tant leur étrange beauté saisit l'esprit aussi bien que le corps. Tout voyageur venant chez nous se doit d'aller à les rencontrer. Il ne pourra être déçu et concevra que parfois, du chaos peut jaillir la beauté, du moins du chaos minéral, surtout lorsqu'une lumière presque irréelle éclaire ce que l'érosion a forgé de plus admirable aux abords d'une mer d'humbles bouleversants. D'étranges sculptures de granit où se mêlent des pastels d'orange, de vert et de rose, que je ne sais quel poète lointain a pourvu de noms évocateurs. La tête de chien, la tortue, l'évêque, l'aigle, la confession. Peut-être doit-on ces noms à Maupassant. Passant là, lors de son voyage en Corse, il écrivit un texte superbe dont je ne peux m'empêcher de reproduire quelques extraits plutôt que de tenter de l'imiter. Et c'est par lui que je terminerai cette page. Je pénétrai soudain dans une fantastique forêt de granit rose, une forêt de pics, de colonnes, de figures surprenantes rongées par le temps, par la pluie, par les vents, par l'écume salée de la mer. Ces étranges rochers, hauts parfois de 100 mètres comme des obélisques, coiffés comme des champignons, ou découpés comme des plantes, ou tordus comme des troncs d'arbres, avec des aspects d'êtres, d'hommes prodigieux, d'animaux, de monuments, de fontaines, des attitudes d'humanité, pétrifiées, de peuples surnaturels emprisonnés dans la pierre par le vouloir séculaire de quelque génie, formaient un immense labyrinthe de formes invraisemblables. On y distinguait des lions accroupis, des moines debout dans leurs robes tombantes, des évêques, des diables effrayants, des oiseaux démesurés, des bêtes apocalyptiques. Peut-être n'est-il pas par le monde rien de plus étrange que ces calanches de Piana, rien de plus curieusement ouvragé par le hasard. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.